France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guy Linmège. Nouvel épisode de notre série consacrée à l'Allemagne, première puissance européenne en plein doute à l'approche des élections fédérales du 23 février. Nous avons évoqué hier les enjeux du scrutin dans un paysage politique en pleine mutation. Aujourd'hui, les inégalités d'un pays encore marqué par la fracture Est-Ouest et une classe moyenne qui s'appauvrit.
Il y a beaucoup de retraités ici qui doivent ramasser des bouteilles consignées pour toucher quelques dizaines de centimes. Notre avenir n'est pas assuré. Il faudra peut-être que l'on fasse la manche un jour. Chaque Allemand qui travaille devrait pouvoir continuer à vivre dignement une fois à la retraite et ne pas être obligé de ramasser des bouteilles consignées. L'Allemagne est riche. L'Allemagne est riche.
En général, je suis quelqu'un qui chauffe peu parce que ça coûte cher. L'hiver dernier, j'ai allumé le chauffage deux fois maximum. Alors je sais qu'il faut faire attention et qu'il faut éviter de ne pas chauffer du tout à cause des canalisations qui pourraient geler. Mais nous essayons de consommer le moins possible. Quand il fait froid, on rajoute un pull.
Ici, dans le quartier, tout le monde est en colère. Les gens se sentent socialement déclassés et abandonnés à leur sort. Et je ne vous parle pas de la classe inférieure. Je vous parle de nous, de gens de classe moyenne qui, jusqu'à présent, parvenaient à vivre correctement de leurs revenus, mais qui n'y arrivent plus.
17 millions d'Allemands et d'Allemandes menacés de pauvreté et d'exclusion sociale, dont 3 millions d'enfants. Tous les rapports, tous les chiffres confirment ces témoignages, parlent d'une paupérisation constante de la classe moyenne allemande et d'une absence de perspective, y compris pour de nombreux travailleurs, obligés d'accepter des emplois précaires ou à mi-temps. Une fracture sociale qui se double d'une fracture territoriale. 35 ans après la réunification, il paraît complètement anachronique de toujours parler de l'Allemagne dans ses différences entre Est et Ouest, et pourtant, ces différences, ces inégalités subsistent. Elles sont d'ailleurs beaucoup invoquées pour expliquer le vote des habitants de l'Est, beaucoup plus favorable à l'extrême droite que dans le reste du pays. Alors comment expliquer la persistance de cette double fracture sociale et territoriale? Comment ces inégalités structurelles nourrissent une défiance vis-à-vis de la démocratie telle qu'elle s'est installée à l'Est après la chute du mur? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Anne Sall.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de la Sorbonne, spécialiste de civilisation contemporaine allemande. Vous êtes chercheuse associée à l'INED, qui est l'Institut National d'Études Démographiques. Et nous sommes ici en studio avec Elisa Goudin-Steinmann. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeure en études germaniques à l'Université Paris 3, co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et l'Allemagne de l'Est. La RDA après la RDA, c'est le livre que vous aviez fait paraître il y a quelques mois aux éditions Nouveau Monde. Alors, on a entendu dans l'émission d'hier combien le thème de l'immigration avait pris la place en Allemagne dans les débats d'avant les élections du 23 février. Est-ce que les questions sociales, Elisa Goudin-Steinmann, doivent encore jouer des coudes pour s'imposer encore aujourd'hui dans la campagne et dans les discours politiques?
Oui, c'est difficile elle de pas être reléguée au second plan. Les choses dont on parle pendant la campagne, c'est beaucoup les problèmes économiques de l'Allemagne, puisque c'est inédit pour les Allemands d'être en récession. Ils connaissent, c'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués.
La troisième année consécutive.
Voilà. Bon, c'est pas une crise majeure encore, mais ça fait partie des préoccupations importantes. Mais c'est vrai que le constat que tout le monde fait, c'est que l'AfD a réussi à faire qu'on ne parle que de politique migratoire.
L'AFD, l'extrême droite.
L'extrême droite, voilà. Et ça, c'est vraiment marquant. Ce n'était pas le cas dans les précédentes élections législatives.
De quoi on parlait dans les précédentes élections législatives, ces thèmes qui ont donc disparu pour l'instant des débats?
Alors, pas complètement disparu, mais oui, relégué au second... justement, cette fracture Est-Ouest, par exemple, c'est un thème quand même qui est très important, qui ne devrait pas l'être, mais qui est très important encore aujourd'hui. Ou alors, le retard numérique de l'Allemagne, le besoin criant d'investissement dans les infrastructures. Enfin, pour un pays aussi développé, voilà, il y a plein de thématiques comme ça de pour préparer le futur qui sont un peu reléguées au second plan.
En effet, pendant le, ne serait-ce que le débat d'avant-hier entre Olaf Scholz, chancelier sortant du parti de centre-gauche SPD, et Friedrich Merz, son adversaire de la CDU, donc parti traditionnel de droite, ces questions-là, Hansal était assez peu présente. Alors il a été question quand même, parce que Friedrich Merz en a fait un sujet d'attaque d'emblée en disant ça fait 3 ans que l'Allemagne est en récession, c'est la première fois en effet, il y a 3 millions de chômeurs, donc la CDU a essayé d'attaquer le chancelier sortant sur ce bilan-là. Est-ce que lui, le SPD, parti de centre-gauche, d'Olaf Scholz, essaye de faire de ces questions un sujet de campagne en mettant aussi en avant un certain bilan, parce qu'il y a 2-3 peut-être bilans qu'il pourrait justement mettre en perspective et dont il peut des peut-être 2-3 petites choses qui sont redressées et dont il pourrait se targuer.
Oui, alors effectivement, la dimension sociale, elle a quand même une importance dans cette campagne, certes indirecte, mais qui est quand même assez important de mon point de vue. D'une part parce que c'est quand même l'une des raisons de la fracture qu'on a eue au niveau du gouvernement entre les libéraux, puisque le ministre des Finances, Lénin, qui est donc un libéral, voulait des économies partout et en particulier donc des diminutions sur le plan social. Et ça a été l'une des causes de la fracture avec Olaf Scholz. Donc c'est quand même un élément qui est présent. Et qui va l'être parce qu'il y a quand même des chances qu'il ait un parti de gauche au gouvernement, même si la CDU-CSU, les conservateurs, devaient gagner les élections. Ils auront besoin d'un partenaire de coalition. Il est probable qu'il faudra qu'il faille le trouver à gauche. Et dans ces conditions, évidemment, il y aura du social. Olaf Scholz a quand même annoncé dans sa campagne des baisses d'impôts, des emplois solides qui permettent d'être bien rémunérés et de bien en vivre. Donc c'est quand même un élément qui reste effectivement présent dans la campagne et qui ressort quand même dans le débat au moins à un niveau, qui est le niveau sur le débat sur le frein à l'endettement. Parce que Olaf Scholz est pour un assouplissement de ce frein à l'endettement. Merz n'a d'ailleurs pas fermé la porte à de telles possibilités. Et si on obtient un assouplissement du frein à l'endettement, cela permettra davantage d'investissement et cela aura des répercussions sur l'économie, sur le marché du travail et donc évidemment également sur le plan social. Ça, c'est quand même important. Donc, le frein à l'endettement, peut-être rapidement, on autorise le gouvernement à souscrire de nouvelles dettes qu'à hauteur de 0,35% du PIB. Et actuellement, c'est ce qui a freiné les investissements publics, en particulier dans quantité de domaines, notamment les infrastructures, mais pas seulement. Et donc, Elisa Goudin en parlait à l'instant sur la question, par exemple, de la numérisation, donc de la transition numérique, qui ne s'est pas faite ou pas suffisamment, justement, faute de moyens. Donc ça, c'est quand même un grand débat qui aurait un impact social absolument évident.
Alors, impact social évident et deux candidats qui, aujourd'hui, non pas se déchirent, mais en tout cas débattent beaucoup sur la possibilité, la faisabilité de maintenir des politiques sociales et celles qui avaient été mises en place sous Olaf Scholz et cette coalition avec les Verts et les libéraux. En quelques mots, la grande mesure dont s'est targué Olaf Scholz, c'était le revenu citoyen, le Bürgergeld, dont Friedrich Merz a dit lors du débat avant-hier que ça avait été une erreur, que c'était en fait un revenu universel déguisé, pour le dire vite. Peut-être Elisa Goudin-Steinmann, sur cette mesure-là, elle avait quand même été assouplie après sa mise en œuvre en 2022. Elle avait été beaucoup, beaucoup assouplie parce que justement, il manquait d'argent dans les caisses.
Oui. C'est Olaf Scholz lui-même dit que c'est pas justement un revenu universel, qu'il faut contribuer, mais l'idée était quand même, et ça c'est dans l'ADN des sociodémocrates, d'aller vers, contrairement à Hartz-IV qui s'était fait avant, donc qui
les réformes Hartz-IV dans les années 2000.
Schröder, voilà, qui allait vers une plus grande une logique de punition des chômeurs et de flexibilisation du marché du travail. Là, l'idée était de refaire confiance aux gens et d'aller vers plus de dignité et de confiance. Donc, c'était un peu essayer de mettre en œuvre les idées de la social-démocratie.
En sanctionnant moins, en fait, les chômeurs qui n'acceptaient pas tout de suite une offre d'emploi, mais dans les 6 mois. Voilà. Au-delà de 6 mois, les sanctions tombaient. Et c'est ça qui distinguait sans doute cette allocation d'un revenu universel.
Oui, voilà. Et puis, la grande question de qu'est-ce qu'on attend en échange? Comment on leur demande de contribuer pour la nation en échange de ce revenu citoyen? Alors ça, c'est un peu une question en suspens. Ça dépendra de la coalition qui va sortir des urnes. On peut pas trop dire aujourd'hui ce qui va se passer sur ces mesures-là.
Et on entendait aussi Anne Sall dire que ces discours, tout parti confondu, intègrent le fait qu'il faudra peut-être composer une coalition. Donc chacun se positionne pour l'instant avec prudence, mais cherche à gagner aussi des voix
voilà,
ici et là.
C'est un peu paradoxal parce que justement, ils sont quand même assez, en tout cas Friedrich Merz, il est vraiment très agressif, aussi bien avec les Verts qu'avec les sociaux-démocrates, qui sont les deux partenaires possibles pour une coalition. Et au point que ça paraît un peu difficile de se dire, il va falloir quand même dans très peu de temps là faire des négociations pour gouverner ensemble. Alors qu'on, moi, ça donne plutôt le sentiment qu'ils tirent à boulets rouges.
Et que ce sera difficile de monter. Ça,
oui, voilà, c'est un peu. Même si c'est, je sais bien que c'est la culture du compromis en Allemagne, mais là, ça va être quand même. On va atteindre un peu les limites, je pense. Ça va être un peu difficile.
C'est vrai que dans l'émission d'hier, on a beaucoup dit combien Friedrich Merz avait replacé la question de l'immigration dans les débats avec cette motion, puis cette proposition de loi soumise au vote en janvier. Alors même que la CDU est en très bonne position pour remporter les élections. Donc tous ces détracteurs qui lui ont demandé mais pourquoi maintenant, si ce n'est aller draguer sur les voies de l'extrême droite. C'est oublié aussi que la CDU a tenu un congrès tout début février, donc la semaine dernière, avec un programme axé autour de 15 mesures dont la quasi-totalité porte en réalité sur des questions économiques, des exonérations d'impôts sur les heures supplémentaires, des exonérations d'impôts pour les retraités qui travaillent. Friedrich Merz s'appelant aussi à réduire le poids de la bureaucratie, avec des échos au discours d'Elon Musk aux États-Unis, même si aujourd'hui c'est plutôt l'extrême droite allemande, l'AFD, qui se réclame du soutien d'Elon Musk. Alors cette campagne qui porte surtout sur l'immigration, Anne Sall, quand Friedrich Merz fait le lien entre immigration et sécurité, par exemple, comme on l'a bien expliqué hier, me semble-t-il, les invités, l'immigration, est-ce qu'elle est aussi mise en cause par lui, par la CDU et par les politiques en général, quand il s'agit de parler de politique sociale ou d'échec des politiques sociales ? Sous-entendu, il y aurait trop, je ne sais pas si vous êtes encore toujours avec nous, Anne Sall, sous-entendu, il y aurait trop d'immigrés pour qu'on puisse encore financer les politiques sociales. Non, vous n'êtes plus avec nous. Elisa Gudensteinmann, est-ce que vous avez entendu ce discours-là?
Oui, c'est un peu un lieu commun de, justement, du discours qui accuse les mouvements migratoires de coûter cher, alors que, évidemment, tous les observateurs sérieux disent que le marché du travail allemand ne peut absolument pas se passer des flux migratoires, que la natalité étant si basse, est tellement basse en Allemagne qu'on n'a de toute façon aucune possibilité de faire fonctionner l'économie sans les étrangers. Mais voilà, c'est aussi une façon d'essayer de grappiller des voix qui seraient peut-être allées plus naturellement vers l'AFD. Et c'est étonnant de la part de Friedrich Merz, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la France et il voit bien, s'il regarde la France, que essayer de faire ça n'a jamais rapporté de voix à un parti conservateur, en fait. Les gens finissent par voter, en fait... pour l'original plutôt que pour la copie, pour prendre une expression connue. Mais et donc, ça, on sait bien que ça marche très peu et qu'à l'inverse, il risque de... Bon, voilà, il y a un risque, ça ne s'est pas confirmé visiblement dans les sondages, mais il pourrait perdre à l'inverse des voix de gens du centre droit.
Sur cette allocation citoyenne dont vous nous parliez tout à l'heure, Bürgergeld, qui a été mise en place par Olaf Scholz, en tout cas son gouvernement, sa coalition, et qui a été assouplie ou durcie selon la façon dont on en parle 2 ou 3 ans plus tard. Alors pour redire un mot, c'était 563 € par mois versés à des personnes au chômage, également prises en charge d'une partie de leur loyer, de la facture du chauffage. L'ajustement sur l'inflation était plus rapide, mais avec néanmoins des sanctions au-delà de 6 mois en cas de refus de se présenter à une agence pour l'emploi ou de refus d'un poste. Donc des sanctions par ailleurs qui allaient croissantes, hein, elles n'étaient pas tout de suite trop dures. Cette allocation a été accusée d'avoir alimenté la montée de l'extrême droite. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez entendu pour avoir particulièrement travaillé en Allemagne de l'Est, où le vote pour l'extrême droite a été très fort ces derniers mois? Qui s'en est plaint de cette allocation en disant on privilégie toujours les mêmes?
Alors, il y a eu plusieurs voix pour dire ça, pas tellement des voix de citoyennes et de citoyens, mais même Friedrich Merz lui-même a dit, en fait, voilà, les étrangers viennent chez le médecin, vont se faire refaire les dents grâce à l'argent public allemand. Il a eu des expressions comme ça lui-même. Donc, il y a eu plusieurs voix comme ça pour dénoncer ces politiques un peu de redistribution et y compris, voilà, c'était la difficulté aussi déjà à l'intérieur de la coalition. Les libéraux étaient très méfiants vis-à-vis de ça, et c'est Pourtant, c'était justement une volonté un petit peu de rétablir un peu plus d'équité sociale dans un pays qui en a besoin, parce que ces minima sociaux, justement, c'est une personne sur 10 à l'ouest, une sur 16 à l'ouest, une sur 10 à l'est. Donc, c'est beaucoup plus de gens. Et ça, c'est une des fractures sociales aussi, justement, dont on parle. Donc,
c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait justement se dire, parce que ces personnes en ont davantage, enfin, parce que des Allemands en ont davantage bénéficié à l'est de ces allocations et de ces minima sociaux, eh bien, alors, ils devraient davantage porter leur confiance au gouvernement qui les a mis en place, donc la coalition sortante,
le SPD. Justement, le risque de pauvreté fait qu'ils se sentent parfois en insécurité, parfois exclus, étrangers dans leur propre pays. Et l'AFD réussit ce tour de force de leur faire croire que s'ils se sentent étrangers dans leur propre pays, c'est la faute des étrangers.
Anne Sall, on vous a retrouvé, c'est une bonne nouvelle pour en appeler aussi à vos qualités de démographe et d'études de la démographie. Cette question de l'immigration qui a pris énormément de place dans les débats en Allemagne aujourd'hui. Étienne Dubslafier nous rappelait qu'Olaf Scholz lui-même a insisté pendant le débat de dimanche sur la nécessité d'accueillir des migrants, pas seulement par humanisme, mais aussi pour occuper des postes qui manquent de candidats et pour relancer la démographie. Dans quelle mesure la démographie allemande, Anne Sall, hypothèque le financement des politiques sociales à venir ?
Alors, la démographie, pour rebondir sur ce que vous disiez, va devenir absolument indispensable pour le marché du travail. C'est la troisième année consécutive qu'on a un excédent des décès sur les naissances de plus de 300 000. Ce qui veut dire que sans l'immigration, la population allemande diminuerait sensiblement. Et nous allons évidemment vers une baisse du nombre d'actifs, d'actifs potentiels, puisque nous allons avoir les départs à la retraite des baby-boomers, et ça va prendre une ampleur considérable d'ici 2030-2035. Donc là, sans immigration, on aura absolument une baisse du potentiel de main-d'œuvre, c'est évident. Mais c'est un sujet qui est en train de passer à la trappe dans l'imaginaire des Allemands de l'Est en particulier, parce qu'on est dans une période d'augmentation du chômage, parce qu'on nous annonce effectivement d'importantes suppressions d'emplois. L'Est en sera concerné, en réalité toute l'Allemagne en sera concernée. Et on en est même au point que certains économistes disent « heureusement qu'on a une natalité faible en Allemagne parce que ça nous protège relativement en termes d'augmentation du chômage ». Alors qui d'ailleurs est pour le moment modeste, hein, plus 300 000 environ, on est à environ 3 millions de chômeurs en Allemagne. On est sur un taux de chômage qui est de 6% à l'heure actuelle. Bon, c'est une barre symbolique, mais c'est quand même encore nettement moins qu'en France. Et effectivement, là aussi où les Allemands de l'Est estiment que les étrangers, il faut diminuer les aides et diminuer leurs arrivées, la fameuse allocation citoyenne est perçue à plus de 50% par des étrangers. Donc, le durcissement de l'allocation citoyenne qui a eu lieu en 2024 a finalement été largement approuvée en Allemagne de l'Est aussi, parce que finalement, elle va toucher plus particulièrement les étrangers. Donc,
plus
on voit effectivement comme le.
Oui,
c'est ça. Donc, on voit tout à fait ce que disait Elisa Goudin, que il y a cette idée que s'il y a moins de migrants, il y aura davantage de budget pour les Allemands de l'Est. Hein, c'est vraiment aussi ça. C'est l'idée, en fait, des vases communicants. On diminue, on a moins de migrants, on a moins d'aide pour les migrants, on aura plus pour les Allemands de l'Est. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est en particulier s'il y a davantage d'activité économique, il y aura davantage de croissance, davantage de PIB et donc davantage, effectivement, de ressources globalement.
Même si, comme vous le disiez, la crise automobile notamment, mais une crise dans l'industrie en général en Allemagne, laisse se profiler des fermetures de sites et des suppressions de postes assez massives. L'équipementier Continental vient d'annoncer par exemple la fermeture de 5 usines en Allemagne avec 580 nouveaux emplois menacés. Volkswagen qui doit fermer 3 sites de production et supprimer plus de 35 000 emplois cette année. Elsa Gudensteinmann, dans quelle mesure aujourd'hui c'est à la fois ces annonces de suppression de postes et cette peur de voir les postes confisqués, entre guillemets, par une immigration qui est importante parce que l'Allemagne s'est montrée généreuse en 2016 notamment. Est-ce que tout ça fait particulièrement écho à l'Est de l'Allemagne ? Ces sites, est-ce qu'ils sont pour la plupart à l'Est ?
Il y a un écho particulier. Alors oui, il y a une partie des sites qui sont à l'Est, mais il y a un écho particulier parce qu'il y a ça vient s'ajouter à un sentiment plus général d'inégalité Est-Ouest. Et donc ça vient en plus, en fait, sur une plaie déjà ouverte. Mais ce qui est la difficulté, je pense, c'est que c'est une crise qui est structurelle, c'est-à-dire les piliers du miracle économique allemand, c'était l'énergie illimitée, pas chère, c'est des choses qui ne reviendront pas. Les voitures futur, c'est pas le futur non plus. Enfin, donc cette crise, elle est structurelle, il faut se réinventer. Et c'est difficile pour les Allemands de l'Est à qui on a déjà demandé beaucoup de s'adapter en 1990. Et certains ont un peu ce réflexe de dire, là, c'est trop pour moi, je veux plus tous ces changements. Donc, je vais adhérer à une offre politique qui fait semblant de me proposer que on va m'écouter, plus rien ne va changer, on va m'apporter une certaine sécurité. Or, ces adaptations sont absolument, personne n'y échappera, c'est une certitude.
Mon loyer en tant que colocataire est de 325 euros par mois. Après, il faut ajouter environ 100 euros par personne pour le gaz et l'électricité. Et puis, il faut payer Internet. Avec le chauffage, j'ai environ 475 euros de loyer. Mais après, il faut encore faire les courses. Je dirais qu'il me reste environ 150 euros en tout et pour tout. Et ça oblige à faire attention.
Un Francfortois qui témoigne auprès d'Arte, la souffrance des classes moyennes, c'était un documentaire diffusé en 2022 sur la chaîne Arte. Donc des fractures territoriales qui sont entre l'Est et l'Ouest, mais qui s'aggravent aussi à l'Ouest. On va prendre le temps de développer tout ça. Anne Sall, d'abord, quels indicateurs est-ce qu'on prend en Allemagne pour parler de ces inégalités qui persistent et pour voir en quoi elles sont toujours marquées territorialement?
Alors en Allemagne, c'est un indicateur qui existe également au niveau de l'Union européenne. On a effectivement un indicateur qui recense les personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Donc cet indicateur-là, il comprend trois critères. Il faut remplir au minimum l'un des trois critères. Le premier, on le connaît bien, c'est le taux de pauvreté, c'est-à-dire la part de la population qui se situe en dessous de 60% du revenu médian et qui se situe à l'heure actuelle en Allemagne à 15,5%. Pour donner un exemple, en France, on est à 14,4% pour ce même taux. Et les deux autres critères, ce sont les ménages qui ont un niveau d'activité faible, par exemple lorsque l'un ne travaille pas du tout et l'autre n'a travaillé que 2-3 mois dans l'année passée. Et enfin, le dernier indicateur, ce sont les personnes qui sont touchées par une situation de dénuement matériel et social. Donc, ils ne peuvent pas régler des factures imprévues, qui ne peuvent pas se payer une voiture, une semaine de vacances dans l'année, des choses comme ça. Et donc, au total, on est quand même en Allemagne à l'heure actuelle à 20,9% pour 2024, ce qui est beaucoup. Et cela a effectivement augmenté en 2024 par rapport à 2023.
Et là, avec des disparités importantes, si on prend aussi un autre indicateur qui est le taux de chômage, qui a augmenté en effet en Allemagne ces deux dernières années pour s'établir aujourd'hui à 6,2%, avec une hausse assez légère néanmoins, mais une hausse quand même. Certains lenders de l'Ouest, comme la Bavière, ne sont pas concernés. En revanche,
oui, alors les écarts régionaux sont très importants, et pas seulement entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre le Sud et le Nord. On est effectivement toujours dans une situation de plein emploi dans le Sud, où les salaires sont également plus élevés, alors que le Nord est également touché par une dégradation économique qu'on trouve également dans l'Est. Donc on a effectivement des disparités régionales qui sont très importantes. Et donc, pour revenir sur le taux de pauvreté, par exemple, qui est donc de 15,5 en moyenne, on est sur 19 à l'heure actuelle à l'Est, hein, donc quand même un niveau qui est assez important. Et effectivement, comme je vous le disais, il est plus élevé dans le Nord que dans le Sud. Alors, il faut quand même noter que cette situation de pauvreté concerne surtout les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle ou peu d'activité professionnelle. Les chômeurs sont touchés à raison des deux tiers par le taux de pauvreté. Les deux tiers des chômeurs sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est vraiment très important, ce qui veut dire que la clé, c'est véritablement l'emploi.
Et ces chômeurs à qui on a réduit les allocations beaucoup dans les années 2000, un peu dans les années 2010, et même si on a les gouvernements plus récents ont essayé de redresser un peu la barre, il y a peut-être un indicateur qui est moins souvent mis en avant, Elisa Gudenstein-Mann, quand on parle de fracture territoriale en Allemagne, c'est celle peut-être des services publics. C'est au quotidien que les Allemands utilisent les services publics ou se voient confrontés à des fermetures et à un manque criant de services publics. Alors en France, on a l'habitude de plutôt parler d'une fracture entre les villes et les territoires ruraux, les zones rurales, les régions rurales. En Allemagne, comment est-ce qu'on parle de fracture quand on parle des services publics en particulier?
Alors, il y a la même fracture entre zones rurales et villes, mais il y a aussi, de ce point de vue-là, une fracture est-ouest sur l'accès aux services publics. Il y a vraiment plein de petites villes à l'est qui ont été où les gens sont tous partis en masse en 1990, au moment de la, enfin, dans les années qui ont suivi l'unification, où la poste a fermé, plus de trains, plus d'écoles, le taux de natalité est tombé en 1994 dans l'est de l'Allemagne à 0,77 enfants par femme. C'est le taux le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité à aucune époque, hormis le Vatican. Mais à part le Vatican, mais il n'y a aucun État avec si peu. Et donc ça a créé des régions vraiment. Comme en plus, ce sont plus des femmes qui sont parties, ça a créé des situations de misère économique, sociale, très très forte. Et oui, l'accès aux services publics fait partie aussi de ça.
C'est quelque chose que le gouvernement précédent avait entendu quand il a par exemple introduit dans l'intitulé officiel du ministère de l'Intérieur le mot « Heimat », ce mot allemand qui est difficile à traduire, qui veut dire quoi ? Chez soi, région d'où l'on vient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça mettait quelque chose d'un peu d'affectif dans un intitulé de ministère ?
Oui, la Heimat, c'est impossible à traduire. Ouais. C'est la ville d'où l'on vient ou le village d'où l'on vient, mais ça peut être aussi la RDA tout entière vécue comme une Heimat. Enfin, il y a plusieurs niveaux auxquels on peut parler de Heimat. Donc c'est un mécanisme d'identification avec une région d'origine.
C'est plutôt en Allemagne de l'Est qu'on entend ce terme-là ?
Non, on l'entend, on l'entend partout, mais on peut entendre parler de la RDA comme d'une Heimat, ce qui est assez... on pouvait penser que... parce que les gens ne s'identifiaient pas forcément à la RDA avant, mais la façon dont a été conduite l'unification a fait qu'il y a eu rétrospectivement ce sentiment d'identification.
Un sentiment d'identification sur lequel jouent aussi des responsables de l'AFD, le parti d'extrême droite. En Thuringe, par exemple, Björn Höcke, qui parle de l'Allemagne de l'Est comme de la vraie Allemagne. Oui. Je voulais, Elisa Gudensteinmann, que vous nous parliez d'une étude qui a été sortie il y a déjà plusieurs mois, que vous aviez très longuement commentée dans un article passionnant, qui était donc sur une étude faite par une structure de recherche de l'Université de Leipzig, qui documente et analyse les attitudes antidémocratiques. Je lis l'intitulé, c'est une étude publiée en 2023 qui avait été faite auprès de 3546 personnes originaires de l'ex-RDA, Berlin-Est compris d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les études sur l'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce que, aujourd'hui, Elisa Gudensteinmann, qu'est-ce que vous aviez retenu à l'époque de cette étude-là en particulier et de la façon dont elle disait qu'il y avait une défiance envers une démocratie particulière en Allemagne ? Pas la démocratie en général, l'Allemagne de l'Est.
Oui, ça montrait en effet qu'il y avait un manque d'adhésion à la démocratie qui était plus qu'un concept, mais auquel les gens n'adhéraient plus. Pour quelles raisons ? Alors, pour de multiples raisons. La première, ce sont ces inégalités encore 35 ans après. On peut donner juste 2-3 chiffres, mais par exemple, les salaires sont encore extrêmement différents. Il y a 13 000 euros par an de différence de salaire. C'est quand même énorme.
Vous voulez dire entre Allemands de l'Ouest et Allemands
de l'Est.
Comment ça se fait ? Parce que ce sont des emplois moins qualifiés ?
Parce que pour un travail égal, on n'est pas rémunéré pareil à l'Est et à l'Ouest. Et même chose sur l'accès à ce qu'on appelle les postes importants, aux élites, dans les médias, dans la science. Les Allemands de l'Est, c'est 20% de la population. Ils sont dans les médias seulement 8%, dans la science seulement 4%, dans la justice, les postes importants de la justice seulement 2%. Enfin, il y a eu un livre important qui a fait un grand bruit il y a 2 ans de Dirk Oschmann, qui était le premier professeur premier professeur de littérature à être nommé professeur en ayant une origine de l'Est en 2011, donc plus de 20 ans après, il a été le tout premier. Aujourd'hui encore, il y a 108 universités en Allemagne, une seule est dirigée par un Allemand de l'Est, en l'occurrence une femme. Enfin, on pourrait donner comme ça plein d'exemples du fait que la démocratie n'a pas rempli sa mission de créer de l'égalité des chances. Il y a une sorte, ce que Bourdieu appellerait une hypocrisie structurelle, et après on dit aux Allemands de l'Est, vous êtes auto-marginalisés, vous ne comprenez pas la démocratie, et avec beaucoup de paternalisme, alors que c'est quand même des gens, les Allemands de l'Est, qui se sont mobilisés collectivement en 89, qui ont fait tomber le mur, avec beaucoup de courage, parce qu'on était quelques mois après Tiananmen. Donc, leur expliquer maintenant ce que c'est que la démocratie, Mais pourquoi ils n'y adhèrent pas ? Parce que justement, elle n'a pas créé d'égalité des chances, et puis parce que c'est pas cette démocratie non plus pour laquelle ils se sont battus, cette démocratie juste représentative, où une fois tous les 4 ans, on dit OK, vous pouvez continuer. Eux, ils avaient une notion de la démocratie qui était plutôt une démocratie de recherche du consensus, de démocratie participative par en bas. Et il y a beaucoup d'initiatives pour recréer ça aujourd'hui. On parle tout le temps de l'AFD à propos de l'Allemagne de l'Est, mais c'est dommage parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'initiatives qui vont dans l'autre sens pour essayer de recréer de l'adhésion. Et ce serait bien de le mettre plus en lumière parce que je crois que la démocratie, elle ne meurt pas parce qu'il y a des vents contraires, elle meurt quand il n'y a pas assez de vent dans le dos. Et c'est vraiment ce qui est un des enjeux, je crois, aujourd'hui en Allemagne, c'est d'essayer de donner davantage la parole à toutes ces initiatives citoyennes très intéressantes qui essaient de lutter contre l'AFD, justement.
La démocratie ne meurt pas quand il y a des vents contraires, mais quand il n'y a pas assez de vent dans le dos. On retient cette phrase Elisa Gudensteinmann. Peut-être encore un mot avant de donner la parole à Anne Sall sur cette démocratie de base, entre guillemets, qui a été promue beaucoup en Allemagne de l'Est pendant la période soviétique, avec une pratique démocratique ancrée localement. En tout cas, c'était ce que demandaient à l'époque plusieurs collectifs de défense des valeurs du libéralisme politique, qui étaient très actifs. Wirsing der Osten, par exemple, tous ceux qui voulaient un grand courant d'air, justement, à l'époque, avant de faire tomber le mur. Est-ce que ce n'est pas là-dessus que jouent certains dirigeants de l'AFD, l'extrême droite, Björn Höcke encore par exemple, qui parle de patriotisme solidaire, et jusqu'où ça peut répondre à une aspiration? Oui, je vous posais à nouveau la question.
Oui, c'est une stratégie consciente et délibérée de l'AFD de s'adresser spécifiquement à l'Est. Björn Höcke, il vient de l'Ouest, comme tous les dirigeants de l'AFD, ils se sont installés à l'Est pour y faire carrière, en utilisant délibérément, en détournant des slogans de la révolution pacifique, avec un tout autre sens. Par exemple, le peuple c'est nous, ça c'était un des slogans de la révolution pacifique, ça voulait dire le peuple c'est nous, on veut des élections libres, on veut participer, et il le reprend dans un sens raciste. Donc rien à voir avec le sens d'origine, mais c'est fait exprès, tout ça est fait exprès pour s'adresser vraiment à l'Est, parce qu'on sait qu'il y a des chances que ça fonctionne. C'est des gens qui sont en colère contre ces inégalités, contre ce paternalisme, et donc il y a un terrain plus fertile. Et à une exception près, toutes les grandes figures de l'AFD sont venues de l'Ouest pour s'installer à l'Est. Et après, parle de la Heimat. Enfin, c'est très paradoxal, en fait. Ils ne sont pas originaires de là. Ils n'ont pas vécu en RDA.
Alors qu'ils auraient aussi, si on suit leur logique, ils auraient pu rester à l'Ouest de l'Allemagne, où les fractures se creusent aussi dans une certaine mesure. Anne Sall, d'ailleurs, comment mesurer aujourd'hui les fractures qui se creusent à l'Ouest spécifiquement? Il y a des études qui paraissent régulièrement sur la pauvreté des enfants, par exemple, sur également les inégalités dès la crèche, vraiment où il y a des crèches, toute une étude qui avait classé les crèches en catégories A, B. Dans les catégories A, il n'y avait aucun enfant issu de familles défavorisées. Dans les crèches de catégorie B, qui sont en général plus grandes, 30% des enfants viennent de familles à la fois moins aisées économiquement, où on ne parle pas nécessairement allemand à la maison, où ont été recensées des fugues, etc. Aujourd'hui, est-ce que ça devient presque un nouveau champ d'étude, les inégalités qui se creusent à l'ouest de l'Allemagne?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on s'est beaucoup penché sur la pauvreté des enfants. Ça, c'est vraiment un sujet, hein, puisqu'on sait qu'un enfant sur sept est touché précisément par le taux de pauvreté, donc se trouve en dessous du seuil de pauvreté, c'est beaucoup. Donc, effectivement, on a essayé justement de développer, comme vous le disiez, les crèches. En fait, c'était censé être justement un moyen, au contraire, de lutter contre la pauvreté des enfants en leur transmettant en particulier des capacités linguistiques allemandes dès le plus jeune âge. Il s'agit notamment d'enfants issus de l'immigration, puisqu'on sait que l'un des grands handicaps pour l'intégration économique future, c'est bel et bien l'acquisition de la langue, puisque le système scolaire allemand fait que, à l'issue du CM1, les enfants sont orientés en fonction de leur niveau. Et si un enfant ne commence à apprendre l'allemand qu'en entrant au CP, en 4 ans, il ne rattrape pas le niveau des Allemands en termes simplement déjà de compétences linguistiques, et a donc beaucoup plus de chances d'être orienté finalement dans des établissements qui ne mènent pas au baccalauréat, qui ne mèneront pas à des études supérieures. Donc il y a un gros enjeu là-dessus, sur l'acquisition de la langue, et ça c'est véritablement un débat en Allemagne déjà depuis plus de 20 ans, et ça a été l'une des raisons effectivement de la mise en place des crèches. C'était vraiment pour stimuler des enfants issus de milieux défavorables. Et là, on peut quand même dire qu'un effort a été réellement fait, puisqu'on est désormais à largement plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans qui sont accueillis en crèche, sachant qu'on était à des niveaux extrêmement bas, il n'y avait quasiment pas de crèche publique au début des années 2000. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a commencé à se développer qu'à partir de 2005, donc de la réforme de 2005, pour le développement des places en crèche. Mais il y a encore énormément de travail à faire parce que les statistiques montrent de manière très claire qu'on a une surreprésentation, par exemple, des personnes turques en Allemagne parmi les classes qu'on appelle les Hauptschulen, c'est-à-dire les établissements scolaires qui s'arrêtent en fin de troisième. Et ils sont très, très sous-représentés aussi bien au niveau du baccalauréat que des études supérieures. Donc, on voit que là, il y a véritablement un énorme travail encore à faire, en particulier sur les personnes d'origine immigrée, notamment sur cet enjeu, effectivement, de l'acquisition de la langue. On est encore vraiment loin du compte.
Avec des enfants qui partent avec d'autant moins de chances dans la vie s'ils sont élevés seuls par leur mère, c'est de plus en plus le cas. Et en Allemagne, ça devient un vrai problème social.
J'ai d'abord suivi une formation de peintre industriel. C'était mon rêve. J'étais enceinte de mon deuxième enfant quand je l'ai commencé. J'ai eu Alex, puis j'ai terminé la formation. Faire une reconversion professionnelle avec un enfant en bas âge, ce n'est pas facile. Mais j'y suis arrivée. Ensuite, je n'ai pas arrêté de chercher un emploi. Mais en tant que mère célibataire, mes horaires n'étaient pas assez flexibles. Ce qui a compliqué mes recherches. C'est devenu mission impossible.
Des difficultés qui se surajoutent les unes aux autres pour cette jeune femme interrogée par Arte pour un documentaire diffusé l'année dernière, Regard à Berlin, les oubliés de l'ascenseur social, hein, pour Arte Regard. Peut-être Anne Salle sur ces familles monoparentales qui à 30% aujourd'hui en Allemagne sont considérées comme pauvres, surtout si le parent en question est la mère. L'Allemagne qui reste le pays européen où l'écart de salaire entre femmes et hommes est le plus grand. Comment l'expliquer ça aussi en 2025 ?
Alors dans le cas des familles monoparentales, bon, ce sont effectivement généralement des mères qui élèvent seules leurs enfants. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est la réforme du droit du divorce en 2008, qui fait que les maris ne sont plus obligés de payer que sur les trois premières années de vie de l'enfant. Ensuite, de manière d'ailleurs à permettre aux femmes de ne pas travailler pendant ces trois années, elles ont droit à une pension supplémentaire qui leur permet de rester à la maison et de s'occuper de leur enfant pendant trois ans. Et au bout de trois ans, les mères ne touche plus qu'une pension pour l'enfant, mais plus rien pour elles-mêmes. Donc, elles doivent effectivement retrouver du travail, mais elles sont d'une part dans une situation financière plus difficile de ce fait. Il y a quand même un certain nombre de juges qui vont jusqu'à l'âge de 8 ans de l'enfant, mais ça dépend des décisions juridiques. Et d'une manière générale, ça signifie une baisse des ressources qui est quand même très significative. Et ça a eu vraiment un impact qui a été mesuré dans des études. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé des crèches, mais les crèches en Allemagne de l'Ouest surtout ferment en général à 4 heures. Parfois, c'est même 3 heures, 3h30 de l'après-midi. Ce qui veut dire qu'il est très difficile de se maintenir en activité à temps plein, voire impossible. Les couples y arrivent parfois à deux parce qu'il y en a un qui dépose le matin, l'autre qui dépose le soir. En ayant des semaines parfois à 35 heures, on peut y arriver un peu difficilement, mais ça peut encore passer. Mais quand on élève seul son enfant, il faut le déposer le matin, il faut le rechercher l'après-midi, ça ne rentre tout simplement pas. Donc, ce sont des femmes qui sont généralement active à temps partiel. Les trois quarts des mères actives en Allemagne travaillent à temps partiel. Et ça, c'est étroitement corrélé à cette question des horaires des crèches, mais aussi à un environnement culturel qui fait que c'est mal vu. Hein, si on va chercher son enfant au-delà de 4 heures, ça veut dire qu'on est une mauvaise mère, ça veut dire qu'on s'en occupe pas bien. Et ça pèse évidemment. Et cela implique un niveau de ressources plus bas qui intervient bien évidemment aussi chez les couples mariés sur les écarts de salaire et qui intervient sur la retraite.
Et là-dessus, Elisa Gudersteinmann, peut-être une différence avec l'Est, c'est qu'à l'Est, les femmes ont très longtemps eu cette habitude de travailler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a moins de familles nombreuses en Allemagne.
Oui, les femmes en RDA travaillaient et c'était une évidence, enfin, c'était même une obligation. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'écart de salaire femmes-hommes est inférieur. Il y a une chose que je trouve assez intéressante. Il y a une étude récente, d'ailleurs, faite par des sociologues français, qui montre que les petites filles sont meilleures en maths aujourd'hui à l'Est, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la RDA. Mais parce que, je pense, elles ont entendu leur mère et leur grand-mère leur dire que c'était pour elles aussi, éventuellement, d'être ingénieures. C'est des métiers aussi de femmes, ce qu'on a beaucoup moins. Donc, ça explique aussi d'une certaine façon, le fait qu'il y ait... y ait des différences comme ça sur le marché du travail.
Avec une autre différence, c'est qu'elles ont moins de patrimoine. En général, ces petites filles ou ces petits garçons, il y a moins de patrimoine à transmettre dans les familles à l'Est.
En RDA, personne n'aurait eu l'idée d'acheter son logement, donc on ne peut pas le transmettre. Et comme l'Allemagne taxe très peu le capital, il y a des différences dans l'accès au capital qui sont criantes aujourd'hui encore. Il n'y a que 2% des droits de succession qui sont payés par des gens venant de l'Est. 98%, c'est des héritages qui ont lieu dans des familles ouest-allemandes. Donc c'est vraiment très très injuste et l'Allemagne taxe très peu, et Friedrich Merz propose de réduire encore d'ailleurs, taxe très peu le capital. C'est vraiment surprenant vu de France, parce que ça, c'est quelque chose qui est un levier pour créer un peu d'égalité des chances.
Der Wald. Nein, ich laufe nicht, ich renne. Wenn ich nur an dich denke, nass geschwitzte Hände. Bist so schick, deine Rubinien tragen weiß. Das größte Geschenk, das ich dir gerade bieten kann, ist Zeit. Ich tauch ein in deine Welt, hör dir zu, deine Stimme in meinem Ohr. Ja, du flüsterst wie der Wind und dein Himmel öffnet mir sein goldenes Tor. Regenbogenwetter, pustest Nebel durch die Eschen, auf deinen Wegen knacken Äste. Tau klebt in deinen Netzen, neues Leben in deinen Nestern. Können so schön lästern, mit dir will ich allein sein. Nur hier kann ich atmen, die Stadt einfach begraben und frei sein. Ein Zitronenfalter fliegt über deine Skyline. Ja, wenn ich nicht mehr kann, ja nur dann darf ich in dich reinschreien. Mein Wald. Hier will ich high sein. Nur dank dir überleb ich diese Eiszeit. Dein Stammbaum geht so weit zurück. Millionen Seiten reichen nicht. Was ist eigentlich Glück? Streichelst deinen langen grauen Bart und antwortest mit Weisheit. Jedes kleinste Geheimnis verrätst du mir, wenn ich bei dir bin. Du reinigst mich von innen. Nein, dich vergisst man nicht. Du kommst bis da, wo dich die Küste bricht. Mein Weg spaltet sich an der Stelle hier, wo der Blitz einschlägt. Deine Wölfe.
Le rappeur allemand Marteria, Wald, ça veut dire forêt. Der Wald, je crois, nom masculin en allemand, si mes souvenirs sont corrects. En Allemagne, les fractures sociales et territoriales qui persistent et que le thème de l'immigration a supplanté pour la campagne des élections fédérales anticipées le 23 février. Et même si le gouvernement précédent peut mettre en avant certaines réussites de son mandat, il n'a pas tenu toutes ses promesses, loin s'en faut. Notamment en matière de logement.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le secteur de la construction est en mauvaise posture. Les gens ont désespérément besoin de logements. Et bien sûr, nous avons besoin de nouveaux logements pour les travailleurs qui viennent de l'étranger et qui s'installent en Allemagne pour tous les secteurs d'activité. Nous attendons donc un ensemble complet de mesures. Nous attendons surtout une décision de la part du chancelier qui doit également prendre une décision avec les nombreux ministères qui sont responsables. Une décision claire sur la manière dont nous pouvons faire avancer la construction.
Herr Müller, Tim Oliver Müller, le directeur de la Fédération allemande de la construction, interrogé par Euronews sur l'engagement pris par Olaf Scholz de construire 400 000 nouveaux logements par an. Les résultats escomptés ne sont pas là. Le nombre de permis de construire délivrés plafonne à 270-290 000 par an. Bonjour Sylvie Tosserango.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes professeur de civilisation, alors spécialiste des recompositions religieuses et de la régulation du pluralisme religieux en Allemagne. Peut-être un mot sur ce qui vous a conduite à travailler sur le logement, un sujet qui paraît éloigné des religions, mais en Allemagne, les questions sociales et les questions religieuses se mêlent souvent.
Oui, c'est vrai que questions religieuses et sociales, en tout cas, et du logement, pourrait paraître éloigné, mais les églises sont très investies dans le domaine éducatif, social et caritatif, et par ce biais, elles sont également confrontées à ces questions de logement.
Et on vous avait d'ailleurs reçu dans Culture Monde déjà pour parler des banques alimentaires. Alors à quelle crise devait répondre cet engagement d'Olaf Scholz de faire construire 400 000 nouveaux logements par an ? Les Allemands ont de réels problèmes à se loger aujourd'hui.
Oui, l'Allemagne connaît une crise du logement depuis plusieurs années. C'est pas tout nouveau, et c'était pas non plus tout nouveau en 2021. Déjà en en septembre 2018, Angela Merkel avait convoqué un sommet du logement avec différents acteurs, le gouvernement, les chefs de gouvernement des lenders. Pour donner quelques chiffres peut-être, en 2020, on en était à 306 000 constructions de nouveaux logements par an. Alors évidemment, c'est les causes de cette pénurie de logements sont diverses et variées. Il y a eu effectivement l'afflux des réfugiés, des migrants dans les années 2010 qui a contribué à accentuer cette crise. Et on en est aujourd'hui, donc malgré le chancelier Scholz n'a pas tenu ses promesses, on en est à 295 000 logements par an.
L'année dernière. Et oui. Qu'est-ce qui a empêché justement que soient tenus les engagements? Parce que lui dit ne pas manquer de volonté politique, mais de moyens tout court.
C'est vrai. Je pense que la volonté politique, elle est là. Il y a une prise de conscience qui est forte au niveau de l'ensemble des acteurs politiques de cette crise du logement. Après, les solutions envisagées par les différents partis politiques ne sont pas forcément les mêmes. Et je pense que la coalition tricolore a contribué à compliquer les choses, puisqu'il y avait des divergences importantes, notamment entre les Verts et les libéraux.
Là, en l'occurrence, le débat entre CDU, par exemple, le centre-droit, et le SPD, le centre-gauche, c'est que la CDU pense que c'est aux investisseurs privés plutôt de créer de nouveaux logements. Le SPD, lui, souhaite que l'État fédéral poursuive ses investissements, sauf que le contexte n'est pas favorable à la construction. On parle bien de construction. Pourquoi? C'est le prix des matériaux qui a explosé, entre autres?
Oui. Alors, les facteurs qui expliquent justement cette crise du logement, ils sont multiples. On a une conjonction de facteurs qui permettent de comprendre cette crise du logement. Effectivement, les coûts de construction ont explosé ces dernières années. Alors, c'est évidemment lié à la crise énergétique, donc lié à la guerre en Ukraine. Le manque de main-d'œuvre est patent en Allemagne, et ça de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le secteur du bâtiment. On a toute la question des normes environnementales, des normes écologiques qui a compliqué aussi c'est plus long pour obtenir un permis de construire, etc. Donc la conjonction de ces différents facteurs, le coût de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, le coût de la construction, avec le prix de l'énergie, de l'inflation, c'est au cours des dernières années, les normes environnementales et énergétiques, tout cela contribue effectivement à faire en sorte que le marché du logement est en crise et n'arrive pas, malgré la volonté politique, n'arrive pas à, en tout cas, à tenir les promesses qui avaient été faites.
Et avec des promoteurs immobiliers aussi qui disent que les projets ne sont plus rentables, à moins de fixer des loyers très hauts, bien plus hauts que ce qui est pratiqué actuellement. On est à 18 euros le mètre carré à Munich, 14 à Francfort pour ce qui est de la location. Donc tout ça ne serait pas tenable. Est-ce qu'il est possible d'avoir une politique nationale de logement quand l'Allemagne est un État fédéral avec des lenders qui ont aussi des prérogatives en la matière, Sylvie Tosserango?
Ben justement, ça c'est aussi une des difficultés supplémentaires qui s'ajoute. Le fédéralisme a de très bons côtés sur certains points, mais souvent il complexifie les choses, et c'est le cas pour la question du logement. Chaque Land est compétent donc en matière de construction, de logement social, etc. Par exemple, la taxe d'habitation n'est pas là, présente des disparités d'un land à l'autre. Donc, c'est très difficile d'avoir une politique nationale quand on veut résoudre cette crise du logement. Le SPD ou les Verts, par exemple, sont très favorables à un encadrement des loyers assez drastique. C'est beaucoup moins le cas. C'est au contraire, les chrétiens-démocrates veulent assouplir cet encadrement des loyers. Les libéraux veulent le supprimer. Donc, il y a vraiment des divergences de vues qui rendent la situation compliquée. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on peut pas dire, on verra quels seront les résultats des élections, mais il est difficile de dire, c'est ça qu'il faudrait faire, parce que les acteurs sont, enfin, doivent travailler ensemble, doivent coopérer, et on voit qu'ils ont des divergences de vues qui sont profondes.
Le gouvernement d'Olaf Scholz, qui, dans la foulée de sa promesse, avait créé un ministère du bâtiment, est conseillé en la matière par un comité d'experts immobiliers qui estime qu'il manquera en 2027 830 000 logements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il manquera 830 000 logements par rapport à quoi? Puisque par ailleurs, depuis le début de cette émission, on parle d'une natalité en baisse, on parle d'une démographie en crise. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je pense qu'il y a également un facteur dont on n'a pas parlé qui est important, c'est également les disparités entre l'Est et l'Ouest. Nord-Sud également, mais entre... En fait, c'est vrai qu'on parle de la crise du logement, mais il y a, on estime en moyenne, 10% de logements vacants à l'Est aujourd'hui. Donc là aussi, je pense qu'il y aurait des... et il me semble que ce vivier de logements vacants n'est pas vraiment exploité... par les pouvoirs publics. Il y aurait certainement, sans doute, il y aurait moyen de rendre certaines régions à l'Est plus attractives. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des régions qui sont moins dynamiques sur le plan économique. Il y a des régions plus rurales également. On voit également c'est vrai que la densité de population n'est pas forcément la même à l'Est et à l'Ouest. Il y a des disparités très fortes.
Donc, il aurait fallu réfléchir à la rénovation de logements aussi, oui, et pas seulement
les logements vacants. Les logements vacants, certains ne sont pas rénovés en raison de toutes ces normes environnementales. Donc là aussi, c'est une question qui est compliquée parce que les normes environnementales, elles font partie de la transition écologique. Mais les libéraux vont dire, par exemple, il y en a beaucoup trop, on n'en a pas besoin. Donc il y a des désaccords qui sont profonds et qui figent les choses, qui empêchent qu'on arrive à des compromis, à des solutions. Donc ces divergences de vues entre les différents partis politiques rendent les choses compliquées.
Restez avec nous, Sylvie Tosserango. Juste un mot pour réagir, Elisa Steinmann, parce que on parlait justement de ces fractures Est-Ouest, encore une fois, et d'Allemands de l'Ouest qui pourraient décider un jour d'aller s'installer en Allemagne de l'Est. Après tout, il y a plus de places, des logements vacants, nous disiez-vous. Il y a peut-être une qualité de vie qui est très agréable dans les campagnes. Comment faire pour attirer des Allemands de l'Ouest qui ne soient pas que des leaders de l'extrême droite, de l'AFD, puisque vous me disiez qu'ils s'étaient installés en masse?
C'est-à-dire qu'il faut des emplois, en fait, c'est la grande question. Mais c'est vrai, il y a le solde entre Est et Ouest, il s'est inversé tout récemment. Donc là, maintenant, il y a plus de gens qui quittent l'Ouest pour venir à l'Est. Donc c'est quand même bon signe.
C'est nouveau.
Oui, c'est nouveau, c'est tout nouveau.
Et un mot de conclusion, Sylvie Tosserango, sur la question du logement. Est-ce que dans la promesse d'Olaf Scholz de faire construire 400 000 logements, il y a aussi du logement social et vraiment des chiffres en matière de logement social?
Alors, au départ, c'était donc l'objectif 400 000 logements par an, nouveaux logements par an, dont 100 000 logements sociaux. Là encore, on est loin du compte. Et j'avais les chiffres de 2022, par exemple. En 2022, il y avait 607 000 sans-abri en Allemagne aussi. Donc, tout ça, c'est... la situation est quand même assez problématique.
607 000, oui. C'est beaucoup. C'est vraiment un chiffre qui a un nombre qui a explosé. Oui, d'ailleurs, même Olaf Scholz l'a reconnu.
Alors, c'est lié aussi au flux migratoire. Il y a la population d'origine issue de l'immigration est beaucoup plus touchée par cette crise du logement que par l'ensemble de la population allemande. Les défis sont là. Je pense que les différents partis politiques en sont conscients. Mais encore faudra-t-il arriver à des compromis, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et on a vu ce qui a bloqué cette coalition tricolore.
Merci beaucoup, Sylvie Tosserango, spécialiste à l'origine du fait religieux, des recompositions religieuses en Allemagne. Je mentionne votre dernier livre paru aux éditions des presses universitaires d'Aix-Marseille, La reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ainsi que vous, Elisa Gudenstein-Mann, professeure en études germaniques à l'Université Paris 3. Votre blog, dont vous êtes la co-rédactrice, s'appelle « Regard au pluriel sur la RDA et l'Allemagne de l'Est ». C'est un clin d'œil, la RDA après la RDA, c'était le titre de votre ouvrage paru chez Nouveau Monde Éditions. Et merci à vous, Anne Sall, qui était avec nous à distance, maîtresse de conférence à l'Université de la Sorbonne et chercheuse associée à l'INED. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Merci beaucoup.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La grippe aviaire fait les gros titres aux États-Unis, Catherine.
avec la crainte de transmission entre humains et le risque d'une nouvelle pandémie, souligne le Washington Post, le Guardian et The Conversation, alors que l'on ignore comment le virus est capable de muter. Crainte renforcée hier après la confirmation d'un premier cas de grippe aviaire H5N1 dans l'état du Nevada. Un homme qui travaillait dans une ferme laitière, précise le Las Vegas Review Journal. Il est soigné pour une conjonctivite, ajoute NBC News. Mais ce qui inquiète les scientifiques, et CNN notamment, c'est que le virus trouvé au Nevada, avec la souche appelée D1.1, présente une modification génétique qui pourrait l'aider à se copier, à se transmettre plus facilement chez les mammifères, y compris les humains, relève le Washington Post, une souche déjà à l'origine d'un cas mortel en Louisiane, un homme de 65 ans. Et cela fait des mois, rappelle d'ailleurs le Washington Post, que les autorités sanitaires soulignent l'importance pour les travailleurs agricoles d'utiliser un équipement pour se protéger contre les éclaboussures de lait, contre les plumes et la poussière aussi dans les élevages de volailles. Mais l'épidémie de grippe aviaire continue de faire des ravages aux États-Unis. Près de 15 millions de poules pondeuses sont mortes ou ont été abattues à cause du virus. Le prix des œufs bat donc tous les records, note NBC Los Angeles, à 8 dollars la douzaine. C'est une hausse de 46% en deux ans. 100 000 canards ont notamment été abattus sur un seul élevage à Long Island, dans le nord-est des États-Unis. Crescent Duck Farm comptait jusqu'à 1 million de palmipèdes par an. Jusqu'à il y a 3 semaines, raconte une journaliste de CBS dans un reportage télévisé. Des dizaines d'ouvriers agricoles de l'État de New York et du gouvernement fédéral, vêtus de combinaisons de protection blanche contre les risques biologiques, de bottes et de gants aseptisés, ont abattu 100 000 canards qui, du jour au lendemain, n'arrivaient plus à manger dans un état léthargique à cause de la grippe aviaire, explique CBS. Aux États-Unis, plus de 148 millions d'oiseaux, de volailles, ont ainsi été abattus depuis 2022, depuis que le virus s'est propagé aux 50 États, transmis par les oiseaux sauvages, par le biais de leurs excréments et de leur salive, transmis aux mammifères et aux vaches notamment, 67 cas humains également recensés, dont un décès, je le rappelle. Depuis hier, tous les marchés de volailles vivantes de l'État de New York sont fermés sur la côte Est, rapporte CBS New York, après des cas de grippe aviaire détectés sur des marchés du Queens, du Bronx, deux quartiers où des animaux sont morts, note également NBC News dans des zoos.
La question que tout le monde se pose, y compris la presse, Catherine, comment lutter contre cette épizootie ?
L'abattage seul n'est pas la solution, martèle dans les colonnes de Newsweek Andrew de Coriolis à la tête de Farm Forward, un groupe qui milite contre l'élevage industriel. Solution possible, la vaccination, comme ce qui est pratiqué aux Pays-Bas ou en France, explique encore Newsweek. Sauf que les États-Unis sont réticents à la vaccination des volailles par crainte des répercussions potentielles sur les exportations. La viande vaccinée n'est pas reconnue comme exempte de grippe aviaire dans les pays qui importent cette volaille, ajoute Newsweek. Ce qui signifie que c'est le commerce mondial et non la santé publique qui est à l'origine de l'abattage quotidien de volailles et donc du prix de nos œufs, déplore le Denver Post. Et le futur ministre de la Santé aux États-Unis, Robert Kennedy Jr., ne rassure pas les épidémiologistes.
The danger of this cannot be understated. We're talking about somebody who has a basic misunderstanding of the very thing he's trying to solve, chronic diseases.
Nous parlons de quelqu'un qui ne comprend pas que réduire les maladies infectieuses permettra de réduire les maladies chroniques et ce danger ne doit pas être sous-estimé, martèle une épidémiologiste interrogée sur la chaîne télévisée CNN Austin. Robert Kennedy Jr. veut aussi réduire la recherche sur les maladies infectieuses alors que nous sommes dans une période cruciale. Il remet en question des données scientifiques pour lesquelles nous avons des montagnes et des dizaines d'années d'expérience. C'est inédit. Robert Kennedy Jr. est également opposé à la vaccination et c'est très inquiétant, estime encore cet épidémiologiste. La surveillance est un élément crucial. L'Australie, qui pensait en avoir fini avec la grippe aviaire, relève SBS, la chaîne publique australienne vient de détecter un nouveau foyer épidémique dans l'état de Victoria, au sud-est du pays, avec une souche H7N8 différente de la précédente, précise Nine Australia et le Guardian. Infobae, le journal en ligne argentin, s'inquiète lui d'une panzootie, l'équivalent d'une pandémie chez les animaux, après la découverte de 18 000 éléphants de mer morts de la grippe aviaire.
Enfin Catherine, les écoles restent fermées à Santorin. L'île grecque a subi près de 13 000 tremblements de terre depuis fin janvier.
Le plus fort, enregistré hier à 5,3 sur l'échelle de Richter, annonce le journal grec L'IFO. Secousse ressentie d'ailleurs jusqu'à Athènes hier soir. Certains résidents à Santorin ont été vus en train de patrouiller dans des zones dangereuses pour dissuader les touristes de prendre des photos sur les falaises où il y a le risque de glissement de terrain, explique la BBC. Le tourisme est affecté, souligne le journal local Nea Santorinis. Hier, un navire de croisière avec près de 900 passagers a préféré accoster au port de Souda en Crète, indique la radio grecque ERT, préférant donc éviter les tremblements de terre de Santorin.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans un instant, les Midi de Culture.